Épître aux Romains, chapitre 1er. Lecture de la parole. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes, dans de saintes écritures, touchant son fils, né de la semence de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquelles vous aussi vous êtes des appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâces à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier, car Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières, si en quelque manière maintenant, une fois, il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous, car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle, pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis débiteur et envers les Grecs, et envers les barbares, et envers les sages, et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce. Mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent.
Lecture de l'étude. La salutation par laquelle l'apôtre introduit son épître est longue et instructive. Paul se nomme d'abord l'esclave de Jésus-Christ. Mieux que tout autre, il connaissait la liberté chrétienne, mais il considérait comme un honneur particulier d'être un esclave de Christ. C'est ainsi qu'il se nomme dans plusieurs occasions, et nous aussi, nous devrions le faire avec joie. Il n'était pas seulement esclave, mais aussi apôtre et même apôtre appelé. Les autres apôtres étaient bien aussi appelés, mais l'apôtre Paul l'était dans un sens particulier. Les 12 avaient été appelés et envoyés par le Messie vivant sur la terre, tandis que lui, il avait reçu cette grâce et cet apostolat directement du ciel, du Fils de l'homme glorifié à la droite de Dieu, et son apostolat avait été ensuite confirmé par le Saint-Esprit. Actes chapitre 9 et chapitre 13, versets 1 à 4.
Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon appelé Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manaëm qui avait été nourri avec Hérode le Tétrarque et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, ayant été envoyés par l'Esprit-Saint, descendirent à Séleucie, et de là ils firent voile pour Chypre.
Il n'était pas fondé sur une décision humaine, non de la part des hommes, ni par l'homme, Galates 1, verset 1, mais seulement sur Dieu. Déjà mis à part par Dieu dès le ventre de sa mère, il avait été appelé plus tard par la grâce de Dieu. Galates 1, verset 15.
Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce.
Mis à part pour l'évangile de Dieu, Dieu a une bonne nouvelle pour le monde entier, pour les Juifs et les païens, une nouvelle qui est exactement le contraire de ce que les hommes connaissent habituellement de lui. Car quel est l'homme en effet qui connaisse Dieu, comme celui qui donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches, qui ne prend pas de plaisir à la mort du pécheur et est prêt à pardonner? Des milliers d'années, il est vrai, s'étaient écoulées depuis la chute de l'homme avant que Dieu révèle son évangile. Mais il ne lui avait pas été possible, pendant ces longues années, de taire ses voies de grâce. Il donna des promesses par ses prophètes dans les Saintes Écritures, verset 2. Une lumière se lèverait, et tous les bouts de la terre verraient son salut. Puis, quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, Galates 4, verset 4. C'est pour cet évangile que Paul, comme il le dit ici, avait été mis à part. Le Seigneur l'avait désigné comme serviteur et témoin, en le retirant du milieu du peuple d'Israël et des nations, vers lesquelles il voulait l'envoyer pour ouvrir leurs yeux et leur annoncer la rémission des péchés. Actes 26, versets 16 à 18.
Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin, et des choses que tu as vues, et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, en te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi.
Il devait apporter aux uns la délivrance du joug de la loi et aux autres la délivrance de la puissance de Satan. C'était Jésus, la tête glorifiée de son corps, qui l'appelait et l'envoyait. Le Seigneur lui avait dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Tout était particulier dans son cas. La personne qui appelait, l'appel et la personne appelée. C'est pourquoi Paul pouvait nommer l'évangile qui lui avait été confié son évangile. ou l'évangile de la gloire. Ce dernier le plaçait, lui et ceux qui acceptaient son message, sur un tout nouveau terrain. Il les retirait du milieu des Juifs et des païens et les unissait, non pas à un Messie vivant, mais au Fils de l'homme ressuscité dans la gloire, le chef d'une nouvelle création. Aussi Paul ne connaissait désormais personne selon la chair, Christ non plus, quoique dans un autre sens il le reconnaissait bien comme le fils de David. 2 Corinthiens 5, verset 16.
En sorte que nous désormais nous ne connaissons personne selon la chair, et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.
C'est cette personne merveilleuse qui était l'objet de son évangile. C'était l'évangile de Dieu touchant son Fils, né de la semence de David selon la chair, verset 3. Apparu comme tel au milieu de son peuple terrestre, pour accomplir les promesses divines, Christ avait été rejeté. Israël avait ainsi, comme peuple, perdu tous les droits à ses promesses. Désormais, pour les descendants d'Abraham comme pour les païens, qui étaient sans droit de cité en Israël, sans Dieu et sans espérance dans le monde, il n'y avait qu'un seul moyen d'être reçu, à savoir celui de la grâce sans condition. Dieu, dont les dons de grâce et l'appel sont sans repentir, bénira dans l'avenir son peuple terrestre et accomplira envers lui toutes ses promesses. Quelle précieuse vérité ! Aujourd'hui, par contre, il rassemble un peuple céleste d'entre les Juifs et les nations. Le Saint-Esprit est descendu pour glorifier le Fils et lui former une épouse d'entre tous les peuples de la terre. Ainsi, ce qui autrefois n'était qu'une promesse est devenu une réalité. Les déclarations des prophètes de l'Ancien Testament, qui seuls sont en question ici, ont été accomplies en tant qu'elles concernaient l'incarnation du Seigneur, sa mort et sa résurrection, ainsi que les glorieuses conséquences de son œuvre. Les choses qu'ils administraient autrefois pour nous ont été annoncées par les messagers de l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Voir 1 Pierre 1, verset 10 à 12.
Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquises avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près.
Nous avons bien reçu aussi de précieuses promesses relatives à notre marche dans ce monde, mais il ne s'agit pas de cela ici. Les promesses en question dans ce passage concernant l'évangile de Dieu sont accomplies. Celui dont parle cet évangile est apparu. Il est venu dans ce monde, et cela avec deux titres ou sous deux relations différentes. Il est le fils de David, selon la chair, qu'il a prise en grâce. Et il est le Fils de Dieu, et comme tel, déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, verset 4. Comme Fils de David, il n'était pas seulement l'objet des promesses de Dieu, mais il les accomplissait aussi. Nous avons déjà dit que le peuple d'Israël a perdu, par le rejet de son Messie, tous les droits à ses promesses, qui pourtant lui appartiennent. Mais Dieu s'est justement servi de ce fait pour révéler des choses plus grandes et plus glorieuses et pour accomplir son conseil éternel. Christ a renoncé à tous ses droits de fils de David et s'est soumis dans une parfaite obéissance à la mort de la croix. Aussi Dieu l'a ressuscité et lui a donné la gloire. C'est ainsi qu'il a été déterminé fils de Dieu en puissance. Dieu avait manifesté cette puissance déjà dans la résurrection de Lazare. Elle sera manifestée de nouveau par la résurrection de tous les saints, mais nous en trouvons la plus puissante manifestation dans la résurrection du Seigneur Jésus lui-même. Voyez Jean 12, verset 28.
Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau.
Et Éphésiens 1, verset 20.
Il a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
Après avoir été chargé de nos péchés et fait pécher pour nous, et après avoir, comme tel, subi la mort, juste salaire du péché, Jésus est sorti d'entre les morts, triomphant du péché, de la mort et de Satan. La puissance infinie de Dieu s'est manifestée là où la mort était entrée comme conséquence du péché. Christ est ressuscité. Sa chair n'a pas vu la corruption et son âme n'est pas restée dans le Hadès. Psaume 16, verset 10.
Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption.
Acte 2, verset 27.
Car tu ne laisseras pas mon âme à Hadès et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption.
Que signifie donc l'expression « selon l'esprit de sainteté » Du prophète Jérémie, il nous est dit qu'il avait été mis à part pour Dieu dès avant sa naissance. Jérémie 1, verset 5.
Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations.
Et de Jean-Baptiste, qu'il avait été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Christ, par contre, était comme homme né du Saint-Esprit, et sa vie était à tous égards l'expression des opérations de cet esprit. Ses paroles étaient esprit et vie, et tous ses actes se faisaient dans la puissance du Saint-Esprit. En un mot, il se montra dans toute sa vie comme le Saint de Dieu, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et finalement il s'offrit lui-même à Dieu sans tache par l'Esprit éternel. Hébreux 7, verset 26.
Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux.
Hébreux 9, verset 14.
Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant?
Il fut la parfaite offrande de gâteau, de fleurs de farine pétries et ointes d'huile. Il a été sans cesse l'expression et le reflet de la divinité, dont la plénitude habitait corporellement en lui. Il a été éprouvé jusqu'à la mort de la croix, dans le feu le plus ardent, et il ne manifesta que la perfection et un parfum de bonne odeur. Il mourut, et dut mourir, parce qu'il avait pris notre cause en main. Mais la mort ne put pas le retenir. Mis à mort en chair, il a été vivifié par l'Esprit. 1 Pierre 3, verset 18.
Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit.
Cela veut dire que la merveilleuse puissance du Saint-Esprit opéra sa résurrection. Cela ne change en rien le fait que le Père devait à sa gloire de ressusciter celui qui l'avait glorifié ici-bas, et que le Fils possédait la puissance de laisser sa vie et de la reprendre. La résurrection du Seigneur était le témoignage indéniable et public de la puissance qui avait opéré en lui pendant toute sa vie et qui avait révélé ce qu'il était, savoir le Fils de Dieu. Le sujet de l'évangile de Dieu est donc Christ, venu comme fils de David pour accomplir les promesses. Et fils de Dieu déterminé-t-il en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. C'est de ce Seigneur, couronné entre-temps de gloire et d'honneur à la droite de Dieu, et qui agissait comme Seigneur et Christ, que Paul avait reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. Verset 5. À la même heure où il rencontra la grâce et où la lumière d'en haut pénétra dans son cœur ténébreux, il fut appelé à témoigner de ce qu'il avait vu et entendu, et de ce que le Seigneur voulait encore lui révéler dans la suite. Acte 26, verset 16.
Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin, et des choses que tu as vues et celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai.
Ainsi, dès le début, son service fut plus étendu que celui des douze. C'est pour cela qu'il est question ici de l'obéissance de la foi. Cette obéissance lui fait accepter volontairement le message venu du ciel et destiné non pas à Israël seulement, mais au monde entier. Tel était l'apôtre. Qu'en était-il maintenant des croyants de Rome? Ils n'étaient pas des apôtres appelés, et cependant ils étaient des appelés, appelés de Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, saints appelés, et tout cela par Jésus-Christ leur Seigneur. Certes, c'était de glorieux titres qui, d'une part, exprimaient les nouvelles relations de ces croyants avec le Père et le Fils, et, d'autre part, indiquaient que ces croyants étaient soumises à l'autorité de l'apôtre des nations, bien qu'il n'eût pas fondé l'Assemblée de Rome. En sa qualité d'apôtre, il pouvait, avec la toute-puissance de Christ, leur écrire, et il leur adresse sa salutation habituelle, si profondément significative, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Verset 7. Maintenant, ils étaient enfants de ce Dieu tout-puissant et esclaves de ce Seigneur plein de grâce, et le Saint-Esprit se plaisait à les reconnaître comme tels par le moyen de l'apôtre. Jamais auparavant des titres pareils n'avaient été connus, ni au temps des patriarches, ni sous le règne glorieux d'un David et d'un Salomon. Jamais non plus de tels sentiments ou de telles relations n'avaient été donnés à connaître, ainsi que nous les trouvons exprimés dans les versets suivants de notre épître. Dieu avait bien donné de diverses manières à connaître sa majesté, sa bonté merveilleuse, sa patience et sa fidélité, mais nous chercherions en vain dans l'Ancien Testament de tels titres ou un pareil langage. Il n'était pas possible avant que le Seigneur vienne dans ce monde, et, même pendant sa vie et sa marche sur cette terre, des pensées et des sentiments, tels que nous les trouvons exprimés dans les versets 8 à 15, ne pouvaient se trouver dans les cœurs des disciples. Il fallait pour cela l'œuvre de la croix comme fondement. Si nous nous représentons que l'Assemblée de Rome se composait en grande partie de croyants, autrefois païens, nous nous étonnons d'autant plus de trouver une si intime affection entre eux et l'apôtre, dont il n'avait pas encore vu le visage. Premièrement, je rends grâces à mon Dieu, par Jésus-Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier, verset 8. L'amour se plaît à relever et à distinguer ce qu'il y a de bon chez les autres, et en ceci, Paul était un fidèle imitateur de son maître. La situation et l'importance de la ville de Rome, centre du puissant empire romain d'autrefois, rend compréhensible que la nouvelle de la fidélité de ses croyants ait été publiée dans le monde entier. Ils étaient en butte aux persécutions du dehors et aux tentations du dedans. Il en était de même de la foi des Thessaloniciens qui s'était répandue dans la Macédoine et dans l'Achaïe et en tout lieu, de sorte que l'apôtre n'avait pas besoin d'en rien dire. Paul rendait grâce pour cela à son Dieu, et plus il le faisait, en portant sur son cœur dans un amour ardent et avec des prières continuelles les croyants de Rome, plus il avait un désir profond de les voir afin de leur faire part de quelques dons de grâce spirituelle et de les affermir dans la foi, versets 9 à 11. Quel changement dans le cœur de cet homme, autrefois un défenseur fanatique de la loi, un blasphémateur du nom de Jésus et un ardent ennemi de ses disciples. Aujourd'hui, un prédicateur infatigable et rempli d'amour et de la grâce révélée en Jésus, un homme de foi, agissant par l'amour, un esclave de Jésus-Christ. Il se dévouait entièrement pour d'autres, dans les peines et les combats, dans les souffrances et les afflictions, si même en les aimant beaucoup plus, il devait être moins aimé. Tel était l'homme, et combien d'autres choses pourrions-nous dire de lui? Il désirait ardemment qu'il lui soit accordé par la volonté de Dieu d'aller vers eux à Rome, verset 10. Certes, aucun homme ne s'est occupé du bien spirituel du troupeau avec autant de cœur, le cœur même de Jésus-Christ. Involontairement, cette prière monte à nos lèvres. Seigneur, accorde-nous d'apprendre de lui. Donne-nous d'être ses imitateurs comme il l'était le tien. Combien de telles paroles doivent avoir ému les cœurs des croyants de Rome? Paul pouvait prendre Dieu lui-même à témoin qu'il disait la vérité. Oui, c'est lui seul qu'il servait dans son esprit dans l'évangile de son Fils. Ce service n'était pas caractérisé seulement par un zèle extérieur pour l'accomplissement d'un devoir, mais par une consécration intérieure à Dieu et par un dévouement absolu et plein d'amour pour l'évangile de son Fils. Remarquons en passant un changement d'expression. Au premier verset, il est parlé de l'évangile de Dieu, mais ici c'est l'évangile de son Fils. C'est naturellement le même évangile, mais dans le premier nous avons la source, dans le second le moyen par lequel l'amour de Dieu a opéré par Jésus pour sauver des êtres perdus. Le verset 12 est particulièrement touchant et nous montre l'humilité de l'apôtre. Nous avons déjà vu que Paul désirait se rendre à Rome pour faire part aux croyants de quelques dons de grâce spirituelle pour les affermir, c'est-à-dire, ajoute-t-il, pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Était-ce un simple frère qui voulait venir à Rome ou était-ce le grand apôtre des nations? Voir Philippiens 2, versets 1 à 3.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même.
L'assemblée de Rome devait aussi savoir qu'il y avait déjà longtemps qu'il désirait les visiter. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous et que j'en ai été empêché jusqu'à présent. Paul avait donc eu souvent le dessein de venir, mais Dieu dans sa sagesse ne l'avait pas permis. Nous avons déjà parlé des motifs probables. Ce désir de Paul de recueillir quelques fruits parmi eux aussi, comme parmi les autres nations, était absolument justifié et agréable à Dieu. Il était en effet, comme apôtre des nations, un débiteur envers les Grecs et envers les barbares et envers les sages et envers les inintelligents, verset 14. Il avait conscience de cette dette. C'est pourquoi, pour autant qu'il dépendait de lui, il était tout prêt à leur annoncer l'évangile, à eux aussi qui étaient à Rome, verset 15. La longueur du voyage, la crainte de certains dangers de la grande capitale païenne ou d'autres motifs de ce genre ne pouvaient le retenir, et le Seigneur a accompli son ardent désir, mais d'une toute autre manière il est vrai que celle à laquelle les croyants de Rome et lui-même pouvaient le penser, à savoir comme un prisonnier de Jésus-Christ pour eux les nations. Éphésiens 3, verset 1.
C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les nations.
La pensée réjouissante de pouvoir annoncer aussi à Rome l'évangile conduit l'apôtre à parler plus en détail du caractère de cet évangile et à aborder la doctrine de l'épître. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs, verset 16. L'évangile et la puissance de Dieu, et non pas une simple doctrine, une règle de conduite pour l'homme, comme la loi l'avait été. C'est pourquoi il est aussi pour quiconque croit. Il n'exige rien de l'homme, mais lui apporte un salut, accompli en sainteté et justice, venant directement de Dieu et manifestant la puissance de Dieu. Il annonce aux pécheurs sans force une œuvre absolument parfaite, et accompli une fois pour toutes. C'est pourquoi il n'est que pour la foi. La loi exigeait, l'évangile donne, sans conditions et gratuitement, et cela à quiconque veut l'accepter, soit juif, soit païen. Le juif, par suite de ses relations extérieures avec Dieu, était appelé le premier, au moins aussi longtemps que l'ancien système religieux n'était pas encore entièrement mis de côté. Toutefois, le païen n'était pas laissé en arrière. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, dit 2, verset 11. Dans le verset suivant, l'apôtre explique pourquoi l'évangile est la puissance de Dieu. Car, dit-il, la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Ce n'est pas une justice humaine qui nous est communiqué sur le principe de la foi, mais la justice même de Dieu. Une autre puissance que celle de Dieu n'aurait pas pu nous donner une telle chose. La loi aurait pu donner une justice humaine à celui qui l'aurait observée, mais personne ne pouvait l'observer. En outre, une justice obtenue sur le terrain de la loi n'aurait pu donner à l'homme que la vie pour cette terre, car quiconque a fait ces choses vivra par elles, c'est-à-dire restera vivant, ne mourra pas, tandis que nous recevons par la foi la justice de Dieu. Quelle est donc cette justice de Dieu? Cette question paraît bien à sa place à cause de plusieurs erreurs qui ont cours sur le sens de cette expression. Une justice obtenue par l'observation de la loi, si elle était possible, n'aurait en réalité pas de valeur devant Dieu. La justice humaine la plus parfaite ne pourrait pas être nommée la justice de Dieu. Il nous faut ouvrir la parole pour avoir la réponse à notre question. Et que dit cette parole? En Jean 16, versets 8 à 10, nous lisons que le Saint-Esprit annoncé par le Seigneur convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, dit le Seigneur, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Dieu a montré sa justice en élevant son Fils à sa droite, parce qu'il l'avait glorifié. Voir Jean 13, versets 31 et 32.
Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera.
En d'autres termes, la justice de Dieu consiste en ce que le Père a élevé l'homme Christ Jésus dans la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Jean 17, verset 5.
Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Le monde a rejeté celui que le Dieu juste a glorifié. Ainsi, son péché a été manifesté d'une manière complète, et il ne reste rien d'autre pour lui que le jugement. L'évangile que Paul prêchait annonçait cette justice que Dieu avait manifestée, d'une part, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, et en le couronnant de gloire et d'honneur, et d'autre part, en plaçant tout croyant dans la même position dans laquelle Jésus était entré comme homme. Ce que Christ a accompli pour la gloire de Dieu, il l'a accompli en même temps pour nous, de sorte que l'apôtre peut dire dans un autre passage, « Celui qui n'a pas connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. » De Corinthiens 5, verset 21. De même que la justice de Dieu se voit d'abord dans la glorification de Christ, de même elle se voit maintenant en nous, qui sommes en Christ, et elle sera complètement manifestée quand nous apparaîtrons avec lui dans la même gloire, comme le fruit du travail de son âme. S'il en est donc ainsi, si nous avons besoin de la justice de Dieu pour pouvoir subsister devant lui, il est évident que nous n'obtenons cette justice que par la foi, sur le principe d'une grâce absolue. Tout effort de l'homme est non seulement exclu, mais il est absolument mauvais. C'est de cette manière que la porte a été ouverte en même temps à tous les hommes. Tous, juifs et gentils, avaient part de la même manière à cette justice sur le terrain de la foi. C'était, sur le principe de la foi, pour la foi. La foi était le seul moyen pour obtenir un tel salut, et c'était pour la foi où qu'elle puisse se montrer, comme il est dit, le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, verset 4. Et comme il en était autrefois, il en est aussi ainsi de nos jours. Dieu soit éternellement loué pour cela. Dieu manifeste dans le temps actuel sa justice, dans le fait qu'il est juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Chapitre 3, verset 26.
Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste, et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.
Et en lui donnant dès aujourd'hui une place en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1. Après ce qui vient d'être considéré jusqu'ici, nous pouvons comprendre que l'apôtre n'ait pas eu honte de l'Évangile. Le messager d'une telle nouvelle de la part de Dieu envers le monde n'avait certes aucun motif de ne pas l'annoncer. Pareil message n'avait jamais été entendu. La justice de Dieu était annoncée librement et gratuitement et pouvait être la part de tous les hommes sans distinction, par la foi seulement et sans rien y ajouter d'humain. L'apôtre en vient maintenant tout naturellement à considérer pour quelle raison Dieu a dû déployer un tel amour. La cause déterminante en est la ruine irrémédiable du monde entier, la culpabilité de tous les hommes, soit juifs, soit gentils. Si Dieu voulait témoigner son amour au monde perdu, s'il voulait sauver des hommes qui, à cause de leur état de perdition, s'en allaient irrémédiablement à la ruine, il devait trouver un terrain sur lequel il pût faire grâce, non seulement sans faire tort à sa justice, mais au contraire se fondant sur elle. Au point où les choses en étaient, le Dieu saint ne pouvait révéler que sa colère. C'est pourquoi nous trouvons ensuite ce verset 18 si important et pourtant en général si peu compris. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Remarquons d'abord les mêmes expressions au verset 17 et 18. La justice de Dieu est révélée et la colère de Dieu est révélée. Les deux choses sont actuelles en rapport avec l'Évangile. Dans le même temps où la justice de Dieu est offerte par l'Évangile, la colère de Dieu est révélée du ciel. Elle ne s'exerce pas encore, car le temps du jugement n'est pas encore venu, mais elle est révélée, et cela en même temps que la parole de la croix. Cela peut nous paraître étrange pour le moment, mais nous comprendrons la chose en pensant au changement qui résulte de la croix de Christ. Autrefois, déjà Dieu avait exercé à diverses reprises de sérieux jugements sur les hommes. Souvenons-nous du déluge, de Sodome et Gomorre, de la mer Rouge, de Corée, etc. Or tous ces jugements étaient des manifestations terrestres de la providence de Dieu, des signes clairs de son gouvernement, mais non pas une révélation de sa colère du ciel. Dans ces différents cas, Dieu avait bien donné des témoignages de sa justice, de sa sainteté et de sa haine du péché, mais il n'était cependant jamais sorti de derrière son voile qui le cachait. Ce n'est que lorsque le Fils de Dieu eut accompli son œuvre d'expiation et eut posé ainsi le fondement de notre salut que fut pleinement manifesté ce que Dieu est, mais aussi ce qu'est l'homme et ce qu'est le péché. La loi et les voies de Dieu sous l'ancienne alliance avait révélé ses caractères, mais jamais il n'avait montré aussi complètement qu'à la croix combien le péché et le mal lui sont insupportables. Là, celui qui n'a pas connu le péché fut fait péché pour nous et but la coupe de la colère de Dieu contre le péché. Jamais non plus son amour et sa miséricorde ne furent plus mis en évidence qu'à la croix, où nous avons à la fois la révélation la plus saisissante de la justice de Dieu et la démonstration la plus élevée de son amour. Répétons donc encore que si, d'une part, l'Évangile nous révèle la justice de Dieu qui est accordée gratuitement à tout croyant, d'autre part, Dieu nous y montre aussi d'une manière positive que sa colère doit atteindre toute impiété, de quelque nature qu'elle soit, et non seulement l'impiété, mais aussi toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Dieu ne visite plus maintenant les iniquités sur un seul peuple, comme il le faisait sur Israël qui possédait sa parole. Voir Amos 3, versets 1 et 2.
Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant « Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. »
N'assistons plus seulement à ces voies gouvernementales envers les hommes et les peuples à cause de leurs actions, mais il juge maintenant tout mal, tout ce qui est en contradiction avec lui qui est lumière. Sa colère est révélée du ciel contre tous les hommes sans aucune exception. Ils sont tous, à cause de leurs péchés, sous sa colère, et ils y resteront s'ils n'acceptent pas par la foi le salut qui leur est offert. Jean 3, verset 36.
Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
La culpabilité des individus peut être plus ou moins grande, mais ils sont tous coupables, ils sont tous enfants de colère, le monde entier tombe sous le jugement de Dieu. L'impiété est ce qui caractérise l'état des païens. Ils sont sans Dieu et sans espérance dans le monde, ignorants et endurcis, ayant leur entendement obscurci et étranger à la vie de Dieu, s'égarant toujours plus. Éphésiens 2, verset 12.
Vous étiez dans ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde.
Et Éphésiens 4, verset 18.
Ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
L'impiété caractérise plus encore l'état du Juif, qui non seulement possédait les promesses de Dieu, mais qui, par le moyen de la loi, avait connaissance des justes exigences de Dieu envers sa créature. Malgré cela, tout en connaissant les pensées de Dieu sur le bien et le mal, il a aimé l'impiété et transgressé de mille manières les cinq commandements de Dieu. Les avantages que le Juif possédait sur le païen n'ont donc servi qu'à augmenter sa responsabilité et sa culpabilité. Pareillement, de nos jours, la chrétienté a une énorme culpabilité en raison de ses privilèges. Comme l'assemblée de Rome se composait avant tout d'anciens païens, on comprend que l'apôtre s'occupe d'abord, jusqu'au verset 16 du deuxième chapitre, de l'état du monde païen et ne parle qu'ensuite de l'impiété des Juifs. Il énumère trois causes de la culpabilité des païens devant Dieu. Premièrement, ils possèdent le témoignage de la création, ce qui se peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se discernent depuis la fondation du monde par les choses faites par lui, versets 19 et 20. Deuxièmement, ils ont eu au commencement la connaissance de Dieu, verset 21. Troisièmement, ils ont une conscience, même si elle est obscurcie, qui rend témoignage au-dedans d'eux, de sorte que leurs pensées s'accusent entre elles ou aussi s'excusent, chapitre 2, versets 14 et 15.
Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant.
Les païens ont donc une responsabilité bien plus grande que ce que l'on pense habituellement. Qu'ont-ils fait de ce qui leur a été confié? Hélas, ils sont inexcusables. Les œuvres et les lois merveilleuses de la création leur démontraient sans cesse la grandeur, la puissance et la sagesse de Dieu, mais ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce. Leur orgueil et leur présomption les ont fait tomber toujours plus bas dans la folie et les ténèbres de leur cœur, et le jugement est venu sur eux. Nous avons trois fois dans notre chapitre la parole sérieuse, Dieu les a livrés. Cependant, dans sa bonté, il ne s'est pas laissé sans témoignage. Il leur donna du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant leur cœur de nourriture et de joie. De 14, c'est 15 à 17. Mais ils ne répondirent à sa bonté que par de l'ingratitude et du mépris. Or, les hommes ont non seulement eu la possibilité de discerner Dieu par la création, mais au commencement, ils l'ont réellement connu. Verset 21. Nous n'entendons pas parler d'idolâtrie avant le déluge. Et quoique la méchanceté dans ce temps-là fût grande, toutefois depuis la création d'Adam jusqu'à Noé, plus de 1600 ans, Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage. Puis, quand l'histoire de l'homme recommença sur la terre purifiée par le jugement, il y eut, dans la famille de Noé, qui possédait la connaissance de Dieu, un nouveau témoignage pour la génération suivante. Mais l'homme, au lieu de prêter attention à ce témoignage et de laisser luire la lumière divine dans son cœur et sur son chemin, se détourna de Dieu, oublia peu à peu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tomba dans la folie. Se disant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles, versets 22 à 23. En quelques traits, l'apôtre dépeint ici la corruption variée dans laquelle l'homme est tombé au point de vue religieux après le déluge. Il décrit ensuite la terrible dépravation morale qui est la conséquence inévitable de l'éloignement de Dieu et de l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, versets 24 et 25. Ayant changé la vérité de Dieu en mensonge, les hommes ont donné plus d'honneur à la créature qu'au créateur. Quand l'homme sort de la position de créature dépendante, la seule qui lui convienne, il devient la proie de ses passions et de ses convoitises, un jouet de Satan, le père du mensonge, et il tombe rapidement à la fin plus bas que la bête. Les choses qui sont nommées dans les versets 26 et 27 ne peuvent que nous remplir d'horreur et de dégoût, et combien sérieuse est la pensée qu'elles se retrouvent trait pour trait de nos jours dans le monde soi-disant chrétien. Le tableau prophétique des derniers jours de la chrétienté, dépeint en 2 Timothée 3, versets 2 et suivants, ressemble exactement à celui du monde païen décrit dans les versets 28 à 31. Il n'y manque rien. Combien terrible sera le jugement qui doit éclater bientôt sur une telle corruption. Les hommes n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, telle est la conclusion de l'Esprit de Dieu, verset 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. Et alors suit cette longue liste sombre qui commence avec l'injustice et la méchanceté et se termine par « ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde ». Nous y trouvons toutes les actions que le Dieu Saint a vues sur la terre dans les siècles passés et tout ce qu'il y voit encore de nos jours. L'homme, devenu idolâtre, égaré, sous la puissance funeste du péché, a reçu la récompense due à son égarement et a été livré à un esprit réprouvé pour pratiquer avec avidité toutes les infamies, et non seulement cela, mais il trouve son plaisir en ceux qui commettent de telles choses. Oui, il aime à attirer d'autres êtres, restés relativement purs, dans la corruption dans laquelle il se trouve. Il connaît la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Et malgré cela, non seulement il les pratique, mais encore il trouve son plaisir en ceux qui les commettent, verset 32. La créature, créée autrefois à l'image de Dieu, pourrait-elle tomber encore plus bas? Certainement sa culpabilité, non seulement son péché, a été démontrée de la façon la plus évidente, et Dieu est juste en jugeant le coupable selon sa sainteté.